sont atteints par cette maladie-là ou ont dans leur famille des membres atteints, il va être important d'en déterminer la transmission génétique. Par exemple, est-ce que c'est, j'y reviendrai tout à l'heure, ce qu'on appelle autosomique dominant, et l'exemple, c'est ce qu'on appelle les atrophies spinocérébelleuses, qu'on dit vulgairement SCA, hein, je suis SCA1, je suis SCA2, je suis SCA3, je suis SCA7, etc. SCA, c'est l'anglais, l'acronyme anglais de spinocérébellar atrophie. Ça peut être autosomique récessif, et un exemple, c'est ce qu'on appelle l'ataxie de Friedreich. Autant faire le diagnostic d'ataxie héréditaire autosomique dominante, c'est facile parce qu'on a une lignée génétique. Pour nous, c'est extrêmement simple de subodorer une maladie génétique quand le papa l'a, le fils l'a et le cousin l'a. C'est beaucoup plus difficile dans les affections autosomiques récessives parce qu'il n'y a très souvent qu'un seul membre qui est atteint. Et puis, de temps en temps, la transmission se fait à l'aide du chromosome sexuel, le chromosome X. Donc on peut avoir une atteinte du cervelet par des maladies héréditaires qui vont aboutir à la dégénérescence de ce cervelet. Et puis, il y a d'autres maladies dégénératives qui vont pouvoir toucher d'autres éléments de notre système nerveux. Par exemple, la maladie d'Alzheimer qui va exclusivement toucher les cellules, enfin, exclusivement au départ tout du moins, les cellules de la mémoire dans le lobe temporal. Il y a, et je m'appuierai beaucoup sur cette maladie pour vous montrer qu'un exemple de progrès qu'on peut faire dans la médecine est de compréhension. Hein, parce qu'il est bien évident que dans les maladies héréditaires cérébelleuses, je ne pourrai vous apprendre grand-chose que vous sachiez dans la mesure où vous êtes adhérent à une association et vous savez parfaitement ce qu'il en est au jour le jour. Mais je vais vous montrer comment, à l'aide d'autres pistes, on peut éventuellement aboutir à des progrès. Donc vous avez la maladie de Parkinson, qui, elle, c'est une mort de certaines cellules très spécialisées du cerveau, et qui est extrêmement fréquente. Et puis, il y a également ce qu'on appelle des atrophies cérébelleuses dégénératives, c'est-à-dire des cellules du cervelet qui vont mourir. Donc ça, c'est les maladies dégénératives, mais le cervelet peut être touché par d'autres maladies, et toutes vont donner un syndrome cérébelleux. Vous me suivez toujours, hein, c'est pas compliqué. Donc il y a les accidents vasculaires cérébraux, un infarctus ou une hémorragie au cerveau. Ça, j'oserais dire, c'est pas trop grave, dans la mesure où les séquelles sont exceptionnelles, ou tout du moins rares. Il y a les pathologies cancéreuses, donc tumeurs du cervelet, qui, là encore, la gravité ne tient pas tellement à la localisation dans le cervelet, mais tient plus au type de la tumeur. Quel type de tumeur c'est. Et bon, ça c'est trop compliqué. Il y a des maladies inflammatoires, comme par exemple la sclérose en plaques. Je vais vous montrer une ou deux bandes vidéo de patients qui ont une sclérose en plaques et qui ont un énorme syndrome cérébelleux. Et puis notre cervelet peut être aussi touché par des infections, peut être touché par des maladies dégénératives. Alors, toutes ces affections-là sont non héréditaires. D'accord ? Et puis, il y a les affections héréditaires que vous connaissez, avec bien évidemment les plus fréquentes étant les SCA et l'ataxie de Friedreich, en sachant que toutes font partie des maladies orphelines et que leur nombre, s'il est trop important, ne l'est pas tant que ça. En sachant également que dans notre région, on est extrêmement riche dans ces maladies-là. Moi, j'en vois énormément en consultation, principalement des patients qui sont atteints de... Il y a beaucoup de SCA3 dans la région. Il y a des très, très grandes familles de SCA3 dans les Deux-Sèvres.
C'est aussi la plus fréquente. Hein.
C'est aussi la plus fréquente. Je ne vais pas vous montrer une photo. C'est la plus fréquente en France. Mais si vous voulez, si vous prenez d'autres pays, ce n'est pas les plus fréquentes. Hein. Donc, vous avez raison, en France, c'est la plus fréquente. Alors, ce qui est important, bien évidemment, dans une maladie héréditaire, et ceci est extrêmement important pour le conseil génétique qu'on peut apporter aux familles, je ne m'étendrai pas plus sur le conseil génétique, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur, déterminer le mode de transmission, et vous avez ici, par exemple, une transmission autosomique dominante. c'est-à-dire que un des deux gènes est atteint, et si ce gène atteint va s'accoupler avec le gène ici non atteint, eh bien vous le voyez, ça va donner un enfant malade. Si par contre le gène non atteint s'accouple évidemment à un gène non atteint, l'enfant sera non atteint et non transmetteur. Donc ça, c'est assez simple à déterminer, c'est ce qu'on appelle la forme autosomique dominante. L'autre problème héréditaire, qui est beaucoup plus difficile à diagnostiquer et à déterminer, et on n'a certainement pas tout trouvé là-dedans, ce sont les affections autosomiques récessives. Et vous voyez ici un sujet porteur, c'est-à-dire qui porte le gène malade, mais qui ne le sait pas. Eh bien, vous voyez que si son gène malade s'associe avec un gène sain de l'autre côté, eh bien, l'enfant sera porteur, mais non malade. Pour que l'enfant soit malade, il faut qu'il y ait deux porteurs sains qui s'associent entre eux. Comme ce sont des maladies rares, le risque que deux porteurs sains s'associent entre eux est quand même relativement peu fréquent. Ce qui fait que on peut être face à une maladie héréditaire, autosomique récessive, et pour autant n'avoir qu'un seul membre atteint dans la famille. C'est clair ça ? Ok. Et puis après, il y a, je vais passer vite là-dessus, parce que ça obéit à peu près au même principe, il y a toutes les hérédités qui sont transmises par le chromosome sexuel, le chromosome X. Je ne reviendrai pas dessus, mais ce sont les garçons qui sont atteints. Alors, le cervelet, c'est un... Alors, mon ordinateur écrase un petit peu les choses. Donc, voici ici un vrai cerveau, et on voit ici le cervelet. Il n'est pas rose, hein, simplement il a été recolorié en rose pour mieux le faire apparaître. Donc voici ici ce qu'est un cervelet humain avec ici ce qu'on appelle le cortex cérébral et on devine le tronc cérébral. Alors à quoi ça sert ce cervelet ? Eh bien vous avez cette affiche. D'ailleurs on reconnaît le logo que j'ai pris de votre affiche pour illustrer ma première diapositive. Le cervelet, il va agir à plusieurs niveaux. Le plus important, c'est dans la marche et dans la coordination de la marche, comme la force est normale, mais la précision de la marche disparaît, ainsi que la stabilité. Ceci, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon médical l'ataxie, et cette ataxie va dépendre de la partie centrale du cervelet, qu'on appelle le vernis. Et puis, les parties latérales du cervelet vont être dédiées plus à la coordination du mouvement. Par exemple, prendre cette feuille-là, la porter ici, je vous montrerai, mais vous en avez déjà vu, évidemment, des syndromes cérébelleux. Et puis, le cervelet va également servir à l'articulation du langage. Là, vous m'entendez, je vous parle, je pense, normalement, j'ai une voix mélodieuse. Vous allez entendre des voix d'atteinte cérébelleuse ou ce sont des voix qui sont beaucoup plus scandées, beaucoup plus explosives, beaucoup plus, entre guillemets, agressives. Et puis enfin, le cervelet va également servir à l'oculomotricité, c'est-à-dire ce qui nous permet de regarder tête droite, ce qui me permet de regarder à gauche, à droite, en haut, en bas. Et on verra qu'une atteinte cérébelleuse peut aussi entraîner des grandes sautes au niveau des yeux, qui bien évidemment vont être extrêmement handicapantes dès lors que le sujet va vouloir fixer quelque chose pour lire ou regarder la télévision. Il aura un peu l'impression que c'est un film qui saute. C'est toujours clair ? Ok. Alors, nous, sur le plan neurologique, on va tester le cervelet par un certain nombre de manœuvres. On va demander au sujet de rester les jambes serrées, de fermer les yeux et de voir s'ils tiennent, comme cette patiente-là, l'équilibre. On va leur demander, donc ça c'est assez fin, on va leur demander de se mettre, là c'est pas le cas, mais dans ce qu'on appelle en station unipodale, c'est-à-dire comme ça, combien de temps ils tiennent, ou comme ça, ou on va leur demander, comme je le fais ici, de mettre un pied devant l'autre. Donc là, on peut démasquer des syndromes cérébelleux légers, ou sinon, on leur demande de marcher, et bien évidemment, l'atteinte cérébelleuse nous sautera aux yeux. Et puis, ça c'est pour l'ataxie, c'est-à-dire la marche. Pour la coordination, on va leur demander de faire, vous avez tous vu faire ça, si vous connaissez, on appelle l'épreuve douanée, comme cette patiente-là, ou du doigt de l'examinateur au nez, et l'épreuve talon-genou, on demande de mettre le talon sur le genou et de glisser le long du tibia, je vous montre. Alors, toutes les bandes vidéo que je vais vous montrer sont toutes des bandes vidéo de patients qui m'ont tous, évidemment, ce sont entre guillemets mes patients, ça n'est pas une banque nationale ou quoi que ce soit, et ce sont des patients qui, bien évidemment, m'ont donné l'autorisation entière de montrer ça dans des conférences dédiées à ça, ou dans des conférences médicales, ou dans des conférences d'enseignement aux étudiants en médecine. Donc là, ici, vous avez un exemple d'un syndrome cérébelleux modéré chez un jeune garçon d'une vingtaine d'années. Un beau gaillard, comme vous voyez.
Parfait.
Voilà, donc vous voyez que la marche n'est pas tout à fait sûre quand même. Hein. Il va d'un côté à l'autre. Vous voyez que quand il se met les talons joints, ce n'est pas tout à fait certain. Hein. Il a des petites hésitations. Alors, ce n'est pas majeur. Et pour moi,
allez-y, marche en mettant un pied devant l'autre.
Et là, vous allez voir que dès lors qu'on essaie de sensibiliser l'épreuve, il en est...
On recommence, n'ayez pas.
Donc sur la marche, ça se voit un petit peu,
quasiment.
Mais dès lors qu'on sensibilise l'épreuve, eh bien, ce jeune garçon est incapable de le faire.
Alors, mettez... Alors, parlez-moi, là, vous avez quel âge ?
Donc, j'ai 24 ans, je viens de terminer juste, il y a un mois... ma formation en BTS assistant de gestion que j'ai eue d'ailleurs, donc un
félicitations.
Merci. Et donc voilà, sur Rennes, c'est une ville très très accueillante.
Déjà, on entend la voix
par ses habitants,
d'un syndrome cérébelleux.
Très sympa, et donc, puis il n'y a pas d'a priori au niveau même du handicap.
À la marche ? Un syndrome cérébelleux à la parole.
Alors mettez le bout du doigt sur le bout du nez, allez, on y va.
Quand je lui demande de...
Très bien.
Voilà, donc
faites-le avec l'autre main.
C'est pas parfait, mais c'est quand même pas mal. D'accord. Donc,
mettez le talon sur le genou et glissez le long. Très bien, recommencez.
Bon, donc ce jeune homme a un syndrome
parfait avec l'autre jambe.
Voyez, progressif, isolé, sans antécédents familiaux et d'autres petites anomalies. Là, on voit ici surtout du côté gauche, à la fois à l'épreuve douanée et à l'épreuve talon-genou. Et l'association à d'autres petits signes neurologiques ont fait porter le diagnostic d'ataxie de Friedreich. Et donc, ce jeune homme a eu la confirmation génétique de l'ataxie de Friedreich. Donc vous voyez qu'une affection cérébelleuse héréditaire peut être quelque chose, évidemment vous saviez, d'unique dans une famille et peut-être extrêmement léger, peut-être au début. Alors, dans l'ataxie de Friedreich, il y a un certain nombre de traitements qui sont en cours et à l'heure actuelle, tous doivent avoir un traitement qu'on appelle le coenzyme Q10, hein, l'idébénone ou Mnésis. Alors, le problème avec cette molécule-là, c'est que ça ne va pas dans le cerveau, ça ne passe pas à ce qu'on appelle la barrière hématoencéphalique. C'est une barrière qui nous protège malheureusement des médicaments, mais heureusement des infections. C'est-à-dire, si on avait une grippette, ça irait immédiatement au cerveau si on n'avait pas cette barrière-là. Mais malheureusement, ça empêche aussi les médicaments de passer. Et cette ataxie de Friedreich, outre l'atteinte neurologique, peut entraîner une atteinte cardiaque et on sait que l'idébénone, le coenzyme Q10 ou l'Mnésis, va limiter, ralentir l'atteinte cardiaque. Donc il est important d'en faire le diagnostic pour rechercher une atteinte d'autres organes comme le cœur par exemple et entraîner une prévention. Il y a un certain nombre de molécules qui sont en cours d'expérimentation. Je n'en parlerai pas quoi.
La photo d'après, c'est un adhérent de notre association.
Ah bon ?
Oui.
D'accord.
Patrick.
Patrick, oui. Exact. Patrick L.
Oui. Oui, oui.
Ok. Donc Patrick L, que j'ai vu il n'y a pas
de... Qui a découvert l'association il y a 2 ans autour de France de Nathalie. Il ignorait que nous existions, il était très isolé.
Eh bien, je vois que vous n'avez pas de problème visuel, madame, puisque vous avez reconnu quand même sa photo en un dixième de seconde. Donc, effectivement... le patient suivant est un patient, je ne sais plus, il a 65, 70, non, 60 ans. Et en fait, il a eu un syndrome cérébelleux 2 ou 3 ans auparavant, de début extrêmement brutal, d'évolution extrêmement rapide, et finalement avec un passé génétique extrêmement pauvre, puisque seul son père, vous me corrigez si je dis... des bêtises, mais il n'a pas de frères et sœurs qui sont atteints par ça, pas d'enfants, et pas d'oncles et tantes, et seul son père a eu des difficultés à la marche à un âge extrêmement tardif, et j'oserais dire, on a tous dans notre famille des gens qui ont des problèmes à la marche à un âge tardif. Et donc...
Et vous avez commencé à mal marcher depuis combien de temps ?
2 ans.
2 ans, d'accord. Et vous êtes, vous déplacez comment maintenant ?
Très mal. Avec difficulté.
Donc vous entendez la voix là en fait.
Parce que si je prends mon déambulateur, je ne marche plus du tout.
D'accord. Eh bien vous allez nous montrer ça.
Et donc là on voit.
Et vous êtes tout seul dans votre famille
à votre maladie héréditaire. Et on voit que ce monsieur, alors que l'autre a maintenant.
Depuis
7 ou 8 ans, le patient qui a la patiente Friedreich, il est très peu évolutif. On voit ici que ce monsieur, en 2 ans, il est quand même extrêmement handicapé, hein, puisqu'il est, il n'est pas autonome seul. Il faut l'aider en permanence, soit en le soutenant comme je le fais là, soit avec un déambulateur comme le vôtre. Et ce monsieur a une SCA de type 7. Alors pour cette maladie-là, il n'y a pas de traitement spécifique qui empêche la limitation de la maladie. Il y a simplement des recherches thérapeutiques qui s'effectuent essentiellement chez l'animal. Alors, vous avez vu un certain nombre de symptômes. Vous avez vu la voix qui peut être altérée dans les syndromes cérébelleux. Vous avez vu la marche qui peut être altérée. Vous avez vu la coordination des mouvements qui peut être altérée. Je vous ai parlé de l'oculomotricité. Voilà une dame qui a un syndrome cérébelleux et vous voyez ses yeux qui sautent sans arrêt. Et ceci, bien évidemment, est extrêmement gênant sur le plan visuel, puisque ça survient surtout lorsqu'elle fixe. Alors, on a quand même des médicaments qui permettent de limiter ces sautes et qui, finalement, lui permettent d'être plus autonome dans la lecture. D'accord ? Alors, voilà pour les syndromes cérébelleux héréditaires. Et comme le thème de la conférence était les maladies dégénératives, j'ai souhaité vous montrer ce qu'on pouvait faire dans une maladie dégénérative, ou même, vous allez le voir après, dans des maladies héréditaires, de comment la recherche pouvait progresser. Et je pense que c'est ça ce qui vous intéresse, même si l'application n'est pas aujourd'hui directement appliquée aux affections cérébelleuses héréditaires. D'accord ? Alors, je vais prendre, et vous allez voir les progrès immenses qui ont été accomplis dans cette maladie, qui autrefois était réputée mortelle, invalidante, vous allez voir. Donc en fait, c'est la maladie de Parkinson. Et comme vous le voyez ici, elle a été décrite en 1817 par Parkinson, hein, d'où son nom, Sir James Parkinson, l'a décrit en 1817, donc... on a à peu près maintenant 200 ans de connaissances sur cette maladie. Et en fait, il s'est quasiment rien passé pendant 180 ans avec des progrès qui sont survenus de manière assez sporadique. Et vous allez voir maintenant ce qu'on peut faire et du modèle de la maladie de Parkinson, quels sont les progrès potentiels dans d'autres maladies. Alors, la maladie de Parkinson... elle est liée tout simplement à la mort de ces cellules-là qui sont dans le tronc cérébral. Vous vous rappelez le tronc cérébral que je vous ai montré. Ça, c'est un tronc cérébral normal. Vous voyez, il y a du noir ici. Et ici, c'est un tronc cérébral de patient qui avait une maladie de Parkinson. Et vous voyez ici qu'il n'y a plus le noir. Ça veut dire que toutes ces cellules qu'on appelle dopaminergiques sont mortes. Et le patient avait la maladie de Parkinson par perte de ces cellules dopaminergiques. Alors, comment ça se passe, en fait, une maladie dégénérative? Eh bien, ici, ça, c'est le nombre de neurones dont on hérite à la naissance. A priori, sauf un manque, on a 100% des neurones dévolus à telle spécialité. Et puis, au fur et à mesure que l'on vieillit, eh bien, on va perdre normalement nos neurones. D'accord? Et ça, c'est normal. Et dans certaines maladies, par exemple la maladie de Parkinson, par exemple la maladie d'Alzheimer, mais bien d'autres maladies, les signes cliniques deviendront apparents lorsqu'on aura perdu quasiment presque tous nos neurones. Par exemple, pour la maladie de Parkinson, la maladie devient, pour nous, médecins, apparente dès lors qu'on a perdu, ici, vous voyez, il ne reste plus que 20% des neurones. C'est-à-dire que on est, mais vous allez voir que ce n'est plus le cas, on n'est pas capable de dépister la maladie de Parkinson avant la perte de 80% des neurones. D'accord ? Alors, en fait, quand on dit que la maladie de Parkinson débute à 60 ans, j'ai peut-être la maladie de Parkinson sans le savoir. Hein, c'est-à-dire que moi, j'en suis peut-être déjà là. OK ? Et le début de la maladie, c'est en fait passé il y a 10 ans chez moi, sans que je m'en sois rendu compte. Donc, déjà, quand on a ce genre de diagramme, et c'est vrai pour toutes les maladies dégénératives, ça doit nous amener à nous poser des questions. La première question, c'est quelle est la cause de cette bascule ? Donc, c'est important. Si on en trouve la cause, peut-être qu'on pourra la traiter. Ce n'est pas toujours le cas. L'exemple des maladies héréditaires montre qu'on connaît parfaitement la cause et on n'est pas capable d'en traiter une grande majorité. Une fois qu'on en a la cause, est-ce que c'est réversible ? On verra pour la maladie de Parkinson qu'on n'en a pas la cause, mais que ça peut être réversible. Enfin, pas à ce niveau-là, pardon. Deuxième élément, est-ce qu'on est capable d'identifier avant la survenue des signes cliniques cette perte-là ? Et si on est capable de l'identifier, est-on capable de la traiter ? Vous me suivez toujours ? Et puis, le dernier point, c'est qu'une fois la maladie de Parkinson survenue, est-ce qu'on est capable de la traiter et de l'améliorer ? Alors, on peut répondre à une grande partie de ces questions maintenant. Alors, premièrement, quelles peuvent être les causes d'une maladie comme ça, d'une maladie de Parkinson ? Eh bien, c'est le cas de toutes les maladies dégénératives du cerveau. Les causes sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une cause, mais il y a une association de plusieurs causes qui, c'est, si vous voulez, c'est comme un accident d'avion. Hein. Enfin, je me suis employé cette métaphore récente, mais c'est l'accumulation de plusieurs choses qui font que ça ne va pas. Alors, il y a une hypothèse qui est celle de virus. On contracterait un virus et ce virus pourrait entraîner la maladie. Alors ça a été vrai, alors vous n'avez pas connu et moi non plus, mais il y a eu un virus qui a entraîné dans les années, alors vous voyez, ça a été l'espace de 10 ans, qui a entraîné des maladies de Parkinson extrêmement importantes qu'on appelait l'encéphalite léthargique. Et il y avait, dans ces années-là, il y a eu un, alors maintenant ils sont tous morts, hein, parce que 1916, ça ferait 90 ans. Mais il y a eu un certain nombre de patients qui ont eu une maladie virale qui a entraîné un Parkinson, comme la polio entraînait des paralysies. Voilà. Donc, hypothèse virale. Au jour d'aujourd'hui, cette hypothèse est tombée. La deuxième hypothèse, c'est qu'on développe des anticorps contre ces cellules. C'est une erreur. Et ça peut être, quelquefois, suite à une infection. Vous voyez ? On a une infection. Le corps réagit mal, développe des anticorps et au lieu de les diriger contre l'infection, va les diriger contre soi-même. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Donc ça, c'est une hypothèse. Dans la maladie de Parkinson, il y a une hypothèse génétique. On sait qu'il y a des maladies de Parkinson génétiques, de père en fils, ou à forme autosomique dominante, par des mutations qu'on connaît parfaitement bien. On sait également que dans la maladie de Parkinson, si son jumeau, son vrai jumeau a la maladie de Parkinson, eh bien le risque qu'on ait soi-même la maladie de Parkinson est beaucoup plus fort que quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc il y a forcément dans ces maladies-là une part génétique. Il y a aussi, et c'est toute la discussion moderne, une hypothèse toxique. Alors l'hypothèse toxique, elle peut être exogène, c'est-à-dire ce qu'on respire, ce qu'on mange, ce qu'on boit, et on sait qu'il y a certaines professions qui sont plus exposées. Il y a une suspicion sur les pesticides. Et puis, on sait aussi qu'il existe des drogues de synthèse. Par exemple, beaucoup de drogués aux États-Unis ont la maladie de Parkinson parce qu'ils ont fait des drogues de synthèse. Et dedans, il y avait un toxique qui s'appelle le MPTP qui provoque des Parkinson. Et d'ailleurs, c'est très bien pour nous parce que grâce à ça, on a pu découvrir cette drogue et on peut avoir des modèles animaux. Il suffit de les intoxiquer, excusez-moi de vous dire ça, hein, mais les intoxiquer au MPTP, les transformer comme en parkinsonien, et ça permet de faire des études médicamenteuses. Voilà. Alors,
rôle protecteur du tabac.
Vous ne l'avez pas vu, mais cette famille, au premier rang, ils ont une vue extraordinaire, ils reconnaissent tout de suite tout.
En même temps, j'allais le dire, aussi.
Alors, j'aurais dû effacer ça. En fait, les gens disent que ceux qui fument beaucoup, finalement, auraient dû mourir avant de cancer du poumon. Non, il ne faut pas en déduire qu'il faut fumer pour se protéger du tabac, parce que de toute façon, vous mourrez d'autre chose. Hein. Et pas de Parkinson. Donc, c'est une maladie qui augmente avec l'âge, comme vous le savez, hein, qui est extrêmement fréquente en France. On admet qu'il y a plus de 100 000 de patients parkinsoniens. Vous savez que ça a touché des gens extrêmement connus. Hein. Ici, vous avez Cassius Clay ou Mohamed Ali. Hein. Et puis, vous avez un exemple plus récent, donc du pape Jean-Paul II. Alors, lorsqu'on a perdu 80% de nos neurones, vous connaissez tous la maladie de Parkinson, hein, on tremble et on ne marche pas bien. D'accord ? Donc, vous avez ici...
Le patient tremble pendant qu'il tient sa main.
L'exemple d'un patient qui a la maladie de Parkinson, vous voyez qu'il a un tremblement de la main, d'accord, hein, c'est assez net. Voilà. Vous voyez ici, quelqu'un qui a aussi la maladie de Parkinson qui a un tremblement de la main ou qui a un tremblement du pied. Donc voilà un signe, le premier signe de la maladie de Parkinson qui est le tremblement. On voit par exemple chez ce patient, quand il marche, que le tremblement ici au niveau de la main droite apparaît. D'accord ? On voit également un autre signe, c'est qu'il y a un tremblement, mais il y a également une rigidité, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas tellement les bras. Vous, quand vous marchez, ou moi quand je marche, sans aller jusqu'à la domation, on balance les bras. Ça, je ne vais peut-être pas le montrer. On voit ici que moi, si on me bouge la main, elle bouge très facilement. Là, le médecin qui examine a beaucoup, beaucoup de mal à mobiliser la main. Il y a une raideur. D'accord ? Donc, premier signe, le tremblement. Deuxième signe, la raideur. Et troisième signe, alors ici, il ne marche pas trop mal, mais vous voyez que ce monsieur-là ne balance pas du tout le bras gauche. Il y a ce qu'on appelle la perte du mouvement. Ça va, ça ? C'est toujours clair. Et quelquefois, la perte du mouvement va arriver jusqu'à l'impossibilité de mouvement. On demande à ce monsieur de marcher, il ne peut pas. Voyez, il est complètement bloqué. Voyez, regardez ses jambes. Et si on n'y va pas, là, il tombe. Hein, c'est ça la maladie de Parkinson. Voyez, d'un seul coup, hop, il y a des blocages qui fait que le sujet peut tomber. Donc vous avez trois signes, le tremblement, ce qu'on appelle l'akinésie, c'est-à-dire la diminution du mouvement, et la raideur. Pour ça, je passe.
L'incidence des troubles de la parole dans la maladie de Parkinson est supérieure à 80%.
C'est pas grave. Et puis également, ils n'écrivent pas très bien. Hein, les parkinsoniens, ils font des pattes de mouche. Alors donc ça, si vous voulez, je vous ai montré un petit bouquin au début qui était le petit livre de Parkinson. Dès 1817, Sir James Parkinson avait déjà décrit tous ces signes-là. Donc ce que je vous montre là, c'est connu depuis 200 ans. Alors ça, je passe dessus. Alors, ce qui est connu plus récemment, c'est que si on fait des examens complémentaires à ces patients, si on fait par exemple des scanners, c'est normal. Si on fait une IRM, c'est normal. Mais grâce à nos nouveaux examens, vous avez ici le réservoir de dopamine d'un sujet normal. Et on voit que c'est tout rouge. Plus c'est rouge, plus il y en a. On voit qu'il y en a bien des deux côtés. Vous avez ici le réservoir de dopamine chez un sujet qui a une maladie de Parkinson. Et vous voyez que ce truc-là, il a disparu. Donc on peut dire que ce sujet-là n'a plus de réservoir de dopamine. Donc on peut confirmer la maladie de Parkinson par cela, mais on sait déjà cliniquement. On peut également savoir quelle est la réserve en dopamine qu'il a. Donc pour nous, c'est extrêmement important sur le plan du traitement. Et vous voyez ici comme s'il y avait deux yeux rouges, d'accord ? Ces deux yeux rouges, c'est une autre réserve dans un autre endroit. Je montre juste cette diapo, puis après, vous avez ici un autre exemple où ici c'est un sujet normal, où vous avez ici la réserve en dopamine dans cette partie-là, la réserve en dopamine dans cette partie-là qu'on appelle le noyau codé. Ici, c'est un patient qui a une maladie de Parkinson. Il n'a plus de réserve en dopamine ici, mais vous voyez qu'il lui reste une réserve dans les noyaux codés. Ici, ce patient-là qui a une autre maladie, qu'on appelle une atrophie multisystématisée, peu importe, vous voyez qu'il a perdu sa réserve ici et là. Et cette maladie-là, par exemple, elle est beaucoup plus grave et beaucoup plus difficile à traiter. Oui, je m'excuse, je vous ai...
Oui, je voulais vous demander si le cliché numéro 2, là,
oui,
est quelque chose que l'on peut identifier pendant la période descendante ou si c'est seulement quand on est déjà à qu'il ne reste plus que 20%.
C'est une très bonne question.
Oui, mais quelle est la réponse?
La réponse, vous allez la voir.
D'accord.
Il faut que je maintienne le suspense.
D'accord.
La réponse est oui. Alors, le traitement dans cette maladie de Parkinson, là, c'est quelque chose qui est apparu, on va dire, dans les années relativement récentes. Hein. C'est dans les années, anciennes pour certains, mais dans les années, moi j'ai commencé la neurologie en 80 et quelques, on commençait depuis peu, hein, les traitements dans cette maladie-là. Alors, on s'est aperçu que, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous remonte les photos, c'était les cellules de dopamine qui étaient mortes, on le voyait sur l'autopsie des patients. Alors, quand on fait de la biologie, je ne vais pas vous ennuyer avec la biologie, ce n'est pas mon but, mais ici, c'est un neurone qui va sécréter de la dopamine et qui va permettre ainsi la transmission des informations et donc la fluidité du mouvement. Ok ? Si on donne de la dopamine à ces gens-là, eh bien, ça ne marche pas aux gens parkinsoniens. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a toujours cette fameuse barrière qui empêche la dopamine de passer. Il faudrait, dans ces cas, donner de la dopamine, faire une injection intracérébrale de dopamine régulièrement. Et toute l'idée des chercheurs a été de déterminer le précurseur de la dopamine, parce que c'est une chaîne, tout ça. Il y a un produit qui va donner tel produit se transforme et va donner tel produit, et tel produit se transformant va donner la dopamine. Donc, en donnant ce qu'on appelle le précurseur de la dopamine, eh bien, ce qui s'appelle la L-DOPA qui est là, eh bien, cette L-DOPA traverse la barrière. Donc, au jour d'aujourd'hui, on traite les parkinsoniens par la L-DOPA, et la L-DOPA dans notre cerveau est transformée en dopamine. Et en fait, c'est un chercheur suisse qui s'appelle Marcus Guggenheim, ça c'est sa date de naissance, qui a donc élucidé la structure de la L-DOPA chez le laboratoire Roche. Vous connaissez peut-être le laboratoire Roche en Suisse, hein, ils sont très célèbres actuellement parce qu'ils ont fait des fortunes avec le Tamiflu là, pour la grippe asiatique et puis pour la grippe mexicaine. Et donc, ça a permis la découverte et la synthétisation de la molécule de L-DOPA, vous voyez, en 1970. Donc, entre Sir James Parkinson, 1817, et le premier traitement efficace, il s'est écoulé 160 ans. Et c'est la préhistoire par rapport à ce qu'on fait maintenant. Vous allez voir comme comme la médecine s'est accélérée. Donc il y a eu la L-DOPA, il y a eu d'autres médicaments, je passe. Et ce qui a été très formidable, c'est que tous ces patients qui avaient la maladie de Parkinson, y compris ceux qui l'avaient chopé par cette infection, l'encéphalite léthargique de Von Economo, ont reçu de la L-DOPA et ces patients se sont remis à bouger et remis à vivre. Et certains d'entre vous ont sûrement vu le film « L'éveil » avec Robert De Niro qui retrace cette histoire, c'est-à-dire des patients qui étaient atteints de maladie de Parkinson par encéphalite léthargique de Von Economo et qui se sont véritablement réveillés sur le plan moteur avec l'avènement de la L-DOPA. Donc voilà une maladie dégénérative pour laquelle il y a eu des réflexions sur la nature de la lésion, sur les neuromédiateurs mis en jeu et puis la synthétisation des neuromédiateurs pour arriver à une amélioration très nette. Alors malheureusement, cette amélioration, là c'est avant traitement, lorsqu'on leur donne de la L-DOPA, on voit qu'ils vont s'améliorer de beaucoup, mais comme vous le voyez, à part un tiers des patients qui va rester amélioré et stable, vous voyez que l'efficacité va diminuer avec le temps. Alors la question, c'est que faire pour ces patients? Alors cette diminution avec le temps peut aboutir soit à des véritables à nouveau reblocages, c'est-à-dire que le patient devient rigidifié, et quelquefois ça peut toucher que certains membres. Vous avez ici un gros orteil tout simplement qui est extrêmement raide, et pour vous donner aussi des petites choses, il n'y a pas que les médicaments et la belle médecine, il y a aussi le soin quotidien qu'on peut apporter aux patients et ce qui peut soulager. Donc là maintenant, quand un patient a un orteil comme ça qui se redresse, c'est impossible à marcher parce que dans une chaussure c'est horriblement douloureux, et bien maintenant on peut injecter ici de la toxine botulique, on entend tous parler pour comme anti-rides ou tout ce que vous voulez, eh bien l'injection de toxine botulique va complètement entraîner une grande souplesse de l'orteil et le sujet va pouvoir se rechausser. Dans certains cas, lorsque la L-DOPA qu'on a donnée dans le sang est en excès, eh bien cela va induire ici, vous voyez, ce patient, il est complètement agité de mouvements parasites. Et ça, ce sont les complications de la L-DOPA avec le temps. C'est-à-dire qu'on a pu soulager nos patients, on les a améliorés à 80 ou 100%, mais on s'aperçoit qu'avec le temps, finalement, il apparaît d'autres complications. Et vous voyez que ce patient est extrêmement gêné. Paradoxalement, ça vous gêne plus que lui, ça ne le gêne, car pendant ces périodes-là, il est quand même relativement libre de ses mouvements. Ou ici, vous voyez que ça peut être quelque chose d'extrêmement important. Donc la question, c'est comment faire, qu'est-ce qu'on peut apporter à nos patients. Donc là, vous voyez tout de suite les limites de la phase médicamenteuse. Alors là, je fais un petit aparté parce que monsieur m'a poussé dans mes retranchements et m'a posé une bonne question, c'est est-ce qu'il est possible au jour d'aujourd'hui de prévoir cette descente? Est-ce qu'on a des moyens de le savoir? Eh bien, la réponse est oui, peut-être. Alors, oui, peut-être. On s'est aperçu, mais ça, on le sait que depuis quelques années, que des patients qui ont un sommeil très agité, alors surtout, n'en déduisez rien pour vous si ça se secoue un peu cette nuit. Hein. Je vais vous montrer un exemple. Vous, quand vous dormez, ou moi quand je dors, on rêve. Quand vous rêvez, eh bien, fort heureusement, celui qui couche à côté de vous ne vit pas vos rêves. Car si vous faisiez tout ce que vous rêviez, ce ne serait pas toujours agréable pour celui qui est à côté de vous. Et donc, dans certaines maladies, il y a ce qu'on appelle la suppression de cela, c'est-à-dire que le patient va vivre ses rêves. Alors, vous avez ici un exemple de patient qui vit ses rêves en plein sommeil paradoxal. Et en fait, son épouse n'était pas très contente et faisait chambre à part. Donc là, il dort profondément, il est dans un sommeil de rêve, de sommeil paradoxal. Et son épouse, qui couchait d'habitude de ce côté-là, finalement était extrêmement gênée. Vous allez comprendre rapidement. voilà, toutes les nuits, dès lors qu'il se mettait en sommeil des rêves, il vivait intensément ses rêves. Donc là, il vit qu'il est agressé. Donc vous imaginez, si sa malheureuse femme est à côté, ça fait plus que l'empêcher de dormir. Hein. Voilà. Donc ça, au départ, on s'est dit, hop, c'est une curiosité. Et puis en fait, on s'est aperçu que lorsqu'on suivait ces patients qui avaient ces troubles du comportement au cours du sommeil paradoxal, eh bien, vous voyez ici, 30 patients, 30 hommes qui avaient ce symptôme-là, eh bien, finalement, à une moyenne de 10 ans après le début, plus d'un tiers étaient parkinsoniens. Et là encore, c'est 3 ans et 10 ans ici, eh bien, 65% étaient devenus parkinsoniens, alors même que quand ils étaient comme ça la nuit, ils n'avaient aucun signe de maladie de Parkinson. Donc, ceci, on vient de trouver un nouveau signe qui permet, je reviens légèrement en arrière, qui permet de dire, on se situe ici. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut traiter? J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, vous avez vu ça. Et lorsqu'on fait l'examen que je vais montrer là, c'est la question de monsieur, pour montrer la réserve en dopamine, eh bien vous voyez que ce n'est pas éteint, mais il y a une perte. Donc on est non pas à 80% de perte, mais on est peut-être à 30-40% de perte. Donc on est sûr que ces patients-là vont développer une maladie de Parkinson dans les années à venir, alors même qu'ils n'en ont aucun signe. Alors la question c'est, est-ce qu'on peut faire quelque chose? La réponse est très claire, au jour d'aujourd'hui, non. Mais la science avance à grands pas et rien n'interdit de penser que dans les années, alors c'est toujours trop tard pour les patients, ça je suis tout à fait d'accord avec vous, mais que dans les années à venir, on ne trouve pas des médicaments qui empêchent les cellules de mourir, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans notre jargon tout ce qu'on appelle la neuroprotection. Et il y a de gros travaux qui se font sur la neuroprotection. Alors ça, c'est des découvertes qui sont extrêmement récentes puisqu'elles datent de moins de 10 ans sur cette phase pré-symptomatique. Il y a un autre élément qui est extrêmement important, et là je vous parle maintenant des traitements de ces dernières années, c'est que lorsqu'on s'aperçoit que la dopamine n'est plus efficace, lorsqu'on s'aperçoit que la dopamine a entraîné ces effets de ce qu'on appelle de dyskinésie, on voit le patient qui s'agite beaucoup, eh bien dans certains cas, on va pouvoir proposer non plus de donner de la dopamine, mais d'aller à l'aide d'électrodes stimuler directement la cible, c'est-à-dire de remplacer l'action de la dopamine par une stimulation sur la cible. Et c'est ce que l'on appelle la stimulation cérébrale profonde. Alors vous allez voir les progrès que c'est, et là je vous répète, ce sont des malades issus de notre patientèle, et vous allez voir les progrès que ça peut donner. Donc le principe est assez simple, on va implanter une électrode dans le cerveau, alors c'est pas n'importe où, hein, vous vous en doutez, on relie cette électrode à un fil qui va sous la peau et qui est relié à un stimulateur, voici ici ce que ça donne, comme un pacemaker. D'accord. Alors la cible, elle est extrêmement petite, là ici vous avez un cerveau vu de face, vertical, en gros les deux yeux de chaque côté vous regarderez là, et la cible c'est, alors c'est colorié pour que vous le voyez, mais dans le cerveau c'est pas coloré, hein. C'est un petit point ici au niveau, peu importe, on appelle ça le noyau sous-thalamique, c'est ce qui est en bleu ici dans la partie interne. Si vous êtes là, ça va entraîner des catastrophes, si vous êtes là, ça va entraîner des catastrophes, si vous êtes là, ça va entraîner des catastrophes. Donc ça veut dire que c'est une préparation minutieuse qui relève à la fois d'une collaboration entre le radiologue, le chirurgien, le neurologue et d'autres personnes. Donc tout cela, la cible, pour atteindre la cible là, ça se fait ce qu'on appelle sous stéréotaxie, c'est-à-dire qu'on a pris nos mesures avant, on prend un cadre, le patient est ici, il n'est pas endormi, hein, il est comme vous et moi. Hein. Il est endormi simplement là où ont été faits les points pour fixer le cadre. Et donc, on va comme ça descendre dans la cible. Et pendant que le patient, pendant qu'on descend dans la cible, on essaye de voir avec le patient si on est dans le bon endroit ou pas. Enfin, évidemment, on n'attend pas la réponse du patient. On a plusieurs éléments pour pouvoir le dire. Il n'y a pas que le patient. Mais c'est un élément de plus. Et on voit ici, sur une IRM d'un des patients du service, voilà la trace de la descente de sonde, et puis finalement pour aboutir ici, et ça finit par faire ces deux petits points que l'on voit là. D'accord ? Alors ça, c'est la théorie, et puis ensuite, une fois que tout ça est mis en place, qu'il y a le pacemaker là, eh bien on va pouvoir régler à l'aide d'une mallette qui, vous allez voir sur les bandes vidéo maintenant, est beaucoup plus petite. On va mettre, c'est par télémétrie, on applique en regard du pacemaker cette sonde-là, et puis on va régler tous les paramètres pour stimuler fort, pas fort. Comme on descend une sonde avec plusieurs plots de stimulation, s'il faut stimuler par ce plot-là ou par ce plot-là. Alors, vous allez voir les résultats. Je vais avoir du son, hein. D'accord ? Donc voilà un patient qui a une maladie de Parkinson. Vous voyez qu'il ne marche pas très bien.
Revenez.
Il est raide, il tremble. Vous voyez qu'il est presque cassé la figure. D'accord ? Je peux vous le remettre. Vous voyez qu'il est voûté.
Revenez.
Voilà ce que ça donne après traitement.
Vous êtes prêts ? Bon, ben allez-y. Hein. Voilà, ben.
Il a l'air content. Hein. Il a l'air content. Donc, si vous voulez, voilà une maladie qui est réputée irréversible et voilà le genre de traitement qu'on peut faire avec des aspects modernes. Vous avez ici un patient qui va vous raconter son histoire, un autre.
Ça fait combien de temps que vous avez été stimulé, monsieur, opéré ?
Le 13 juillet de l'année dernière.
13 juillet 2006. D'accord. Et ça a surtout agi à quel niveau ?
C'est pas trop mal.
Ah oui ?
Qu'est-ce qui est différent ?
C'est différent. On a une bonne chose.
Tout ?
Tout.
La vitesse, le tremblement ? D'accord.
Entre 0% pas d'amélioration et 100% tout va bien, vous diriez que vous avez été amélioré à combien ?
80%.
D'accord.
Donc voilà, il vous raconte son histoire.
Pas de rayon de potier. Vous allez
prendre
la mallette.
On se met en regard de la pile. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire les paramètres. On peut tout régler, là. C'est comme une Game Boy. On peut voir si la pile marche, s'il faut changer la pile. S'il faut stimuler par là, par là, par là.
Vous l'arrêtez là ?
Voilà, là on l'arrête. Voilà. Donc là on vient d'arrêter la pile. Là, le patient, il a le stimulateur qui marche. On n'a arrêté que de ce côté-là. Et vous voyez tout de suite.
Cherche monsieur Nour, c'est
pas. Ça repart. Donc là, on l'a débranché. Cette pile commandant le cerveau droit qui commande le corps gauche. Vous voyez ce que ça fait quand on branche ? Donc, il y a quand même...
On vous sent très gêné là, monsieur. Hein ?
Comment ?
On vous sent très gêné là.
Oui, je suis.
Vous
allez avoir partout.
Il est totalement dépendant, il ne peut pas boire. Et quand on remet, voilà, quand on remet la.
Si on
veut
faire
la même manœuvre,
évidemment, ça
marche. Un autre patient, là, qui est personne, je ne vais pas montrer 50, mais c'est comme ça. Genre, ça ne veut pas dire qu'on peut opérer tous les patients. Ça veut dire que. Voilà. Donc là, c'est pas bon de stimuler.
Revenez.
Ouais.
marcher jusqu'à la porte là-bas, à votre rythme.
Vous allez voir le... Il est à peine opéré, puisque vous allez voir sur son crâne, je vais vous le montrer, c'est vers là, la trace encore...
De marcher jusqu'à la porte là-bas, à votre rythme. Demi-tour et revenez. Et venez vers moi au courant un petit peu.
On n'en connaît pas la cause, on n'a plus de cellules et on arrive à la traiter. Alors là, je vais vous montrer deux autres films pour finir, j'ai plus que deux films. C'est la maladie de Parkinson. Vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle la maladie de Gilles de la Tourette, les tics. Et vous allez voir, par exemple, une patiente qui a une maladie de Gilles de la Tourette. Vous allez voir avant stimulation, après stimulation. Il me semble que c'est elle. Oui. C'est affreux. Hein. Gilles de la Tourette, c'est des tics. Alors elle a des tics avec sa main, ce qui fait que on est obligé de protéger l'œil, sinon elle se le traumatise en donnant des coups comme ça. Et puis, elle a des tics verbaux. Je ne sais pas qu'elle souffre. Hein. Elle a la même. Elle n'est pas dépressive, mais c'est des tics verbaux. Et la voilà après la stimulation. Donc, elle n'a plus besoin de protection, elle va très bien. Et dès lors qu'on arrête la stimulation, pareil.
Même, je suis toute seule dans mon bureau et.
Merde!
Désolée, mais je suis à bout là.
J'ai des tics moteurs, je clignais des yeux.
Un an après, évidemment, la stimulation marche. Hein. C'est juste
mon premier tic, c'était ça. La pour montrer ce
que ça donne. Ah, elle va très bien.
Après, c'était ça. Comme ça, je faisais des vols.
On voit que ça
a cassé mon père.
On voit que ça marche.
Ah, pour moi, c'est du passé. Je ne peux y repenser parce que j'ai passé trop d'années à souffrir.
Si ce n'est pas le seul centre qui faisant ça. Je vais vous montrer aussi dans une autre maladie qui l'a rejoint un tout petit peu. C'est une maladie héréditaire qui est une dystonie généralisée de l'enfant. Hein, vous allez voir un peu ce qu'on peut faire avec la stimulation. Voilà un gamin qui a une dystonie généralisée.
Oui, ou alors d'abord un bras et l'autre, on n'aime pas. Et
on dit qu'il a une vie qu'on peut qualifier de difficile. Il n'y a aucun trucage dans les films, hein. Je vous répète, c'est des films de patients. Vous voyez qu'il ne peut pas marcher avec des jambes comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Donc là, il est stimulé. Il a pas mal. Hein. Il est stimulé. Voilà, 6 mois après. Alors, tout n'est pas parfait, mais enfin, voilà comment il marche. Alors, c'est pas 100%, mais pour un gamin,
c'est mieux.
Ah oui, parce que la dystonie fait que les pieds se mettent comme ça. Et puis, le voilà après. Donc, un gamin qui est devenu totalement autonome. Donc vous avez quand même une des grosses pistes qui est la piste de la stimulation. Il y a aussi une autre piste, je suis désolé, j'ai mis des dernières diapos, mais j'en ai encore deux ou trois. Vous vous rappelez que j'ai dit qu'il y avait des cellules, par exemple pour la maladie de Parkinson, qui mouraient, donc qui empêchaient la sécrétion de dopamine. D'accord ? Donc, première possibilité, on donne de la dopamine. Deuxième possibilité, on va stimuler la cible pour que ça fasse comme s'il y avait de la dopamine. Troisième possibilité, on va greffer des cellules dans le cerveau. Donc, c'est la greffe. Alors, comment ça se passe, la greffe? De manière simple, on va prendre des cellules immatures, c'est ce qu'on vous avez tous entendu parler de cellules souches, c'est-à-dire des cellules qui peuvent tout faire quand elles sont mises dans un certain milieu. Elles peuvent donner des cellules cardiaques, leurs muscles. Elles peuvent donner des cellules pancréatiques, par exemple dans la recherche pour le diabète. Elles peuvent donner des cellules sanguines. C'est un traitement qui, évidemment, c'est la plus grande application à l'heure actuelle, c'est dans les leucémies. Et puis, ça peut donner des cellules nerveuses. puisqu'on sait que nos cellules nerveuses ne repoussent pas. Et donc, ici, vous avez un exemple de sujet normal, un exemple ici de sujet avant chirurgie et avant transplantation de neurones dopaminergiques embryonnaires, où on voit qu'ici, il n'y a plus rien, et on voit qu'après la chirurgie, ça repousse. Il y a une fonctionnalité. Alors que, pour prouver, je suis désolé, pour prouver l'efficacité des traitements, on est obligé de faire ce qu'on appelle un double aveugle, c'est-à-dire de faire une vraie chirurgie pour voir si ça marche, et une fausse chirurgie pour voir si ce n'est pas un effet d'aller tripatouiller le cerveau qui entraînait la repousse des trucs. Donc une fausse chirurgie, et on voit que le patient qui a bénéficié d'une fausse chirurgie, eh ben avant chirurgie, ça ne marchait pas, après chirurgie, ça ne marche pas plus, puisqu'on a fait une fausse chirurgie sans implantation de cellules. Donc on montre par là même que ça fait partie des possibilités. Voilà, donc ça c'est mon message, c'est celui de toujours garder espoir. Je sais que c'est facile pour nous médecins de dire ça, c'est facile pour bien portant de dire ça, mais la science avance, pas assez vite. Il y a certains domaines qui avancent beaucoup plus vite que d'autres, je vous le concède. Mais quand on regarde en arrière, on s'aperçoit que les progrès de la médecine au cours de ces... je ne suis pas très vieux, ou du moins plus très jeune non plus, mais moi je fais de la neurologie depuis 1980. J'étais nommé 1980 interne à Poitiers, et donc vous voyez, ça fait 25 ans. Eh bien, je n'arrive même plus à assumer ma discipline. Avant, c'est simple, on ne savait pas grand-chose, on était neurologue. Enfin, j'exagère un petit peu quand même. Mais là, je ne suis plus dans tous les domaines, tellement les progrès sont fantastiques. Et donc, je crois qu'il faut garder espoir. Donc, si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Non, ça allait ? D'accord. J'ai préféré vous montrer des bandes vidéo qui sont toujours plus parlantes que le reste. Voilà, donc, s'il y a des questions, je suis à votre disposition.
Vous avez dit que la cellule nerveuse ne repoussait pas ?
Oui.
Donc, dans le cas de Stéphanie, c'était une tumeur,
Exactement. Exactement. Je n'ai même pas besoin de vous expliquer puisque vous avez apporté la bonne réponse. Je vous donne un exemple. Quand vous faites un accident vasculaire cérébral, que vous avez une partie du cerveau qui a été énormément abîmée, certains patients gardent une hémiplégie extrêmement importante, invalidante, et puis d'autres ont fait des accidents de la même importance sur le plan superficie, mais vous ne le voyez pas, ils n'ont aucune séquelle. C'est parce que ces gens-là ont la chance que d'autres cellules ont pris en charge, et ça c'est tout à fait démontré par ce qu'on appelle l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire si par exemple je me mets sous l'IRM et qu'on fait une IRM très spécialisée, si je fais ça, on voit exactement la zone de mon cerveau qui marche. Et bien si quelqu'un qui a une hémiplégie par infarctus ici fait ça, et bien on voit qu'il y a d'autres zones du cerveau qui vont s'allumer, montrant que des cellules saines ont repris le travail des cellules qui sont mortes. Ce n'est pas la repousse, c'est
la compensation.
Alors, pour ce qui concerne le cervelet, c'est l'une des compensations les plus faciles qui soient. On a des patients pour lesquels on est obligé de retirer une énorme partie du cervelet, des gens qui ont des infarctus cérébelleux énormes, et même des deux côtés, et qui ont des séquelles ou pas du tout, des séquelles minimes ou pas du tout de séquelles. Donc le cervelet, j'oserais dire, pour cela, c'est certainement lorsqu'il y a une lésion aiguë, je ne parle pas de maladie chronique, hein. Lorsqu'il y a une lésion aiguë, c'est certainement l'organe qui est le plus facilement récupérable. Donc ce qui explique...
On peut avoir conscience à la récupération totale.
Je ne peux pas vous le dire parce que je... Alors j'espère bien que personne ne peut vous le dire, parce que celui qui vous dira ça, il vous mentira. On ne sait pas pourquoi des gens récupèrent complètement, pourquoi d'autres ne récupèrent pas. Ce qu'on peut dire, c'est que simplement la récupération complète est toujours ouverte. Voilà.
Est-ce que quelque chose peut accélérer
Oui, quelque chose peut accélérer, c'est l'exercice. C'est-à-dire la rééducation, la kinésithérapie. Le kinésithérapeute, il ne fait pas de miracle, hein. Il fait des miracles, mais il ne fait qu'aider, faciliter, d'abord éviter qu'un membre abîmé s'ankylose, et alors même qu'il devrait récupérer, mais il est complètement bloqué, donc ça c'est ridicule. Donc il facilite ce qu'on appelle la mobilisation passive, et puis il facilite la mobilisation active dès lors qu'il y a un début de récupération pour que les connexions, de nouvelles connexions s'établissent. Tout à fait.
Donc, rééducation. Au niveau traitement, elle avait dit
lévotonine. Alors la lévotonine, si vous voulez, ça fait partie des médicaments dont on connaît l'absence d'effets secondaires et dont on peut penser qu'il a une action dans la récupération de la fluidité du mouvement et dans la diminution des mouvements anormaux parasites entraînés par l'atteinte du cervelet.
Et combien de temps de traitement? Est-ce qu'il arrête au bout de 2 semaines? Il n'y avait pas d'amélioration?
Alors, s'il arrête au bout de 2 semaines parce qu'il n'y avait pas d'amélioration, je ne peux pas vous dire comme ça. Il faut vraiment voir. C'est très difficile de donner des conseils parce que c'est souvent des doses très fortes de lévotonine qu'il faut prendre, 6 grammes. Je suis désolé, je peux pas ou je veux pas vous répondre. Si on vous a donné de la lévotonine, déjà, c'est qu'elle a été.
C'est un essai.
C'est qu'elle a été chez quelqu'un qui connaissait ça, c'est déjà pas mal.
Oui, c'est le docteur Mistral.
Hein, très bien. Donné, très bien. Très bien.
Juste pour essayer, on l'a pas depuis. On ne sait pas s'il faut reprendre un traitement ou s'il faut laisser faire la nature.
Il faut faire de la kiné, de la rééducation, ça c'est sûr. La lévotonine, si vous voulez, elle agira plus s'il persiste des séquelles du style mouvement anormal. Voilà. C'est plus à ce niveau-là. Mais là encore, si vous voulez, l'efficacité de ces traitements-là n'a pas été formellement prouvée. Moi aussi, je donne de la lévotonine dans des gens qui ont des syndromes cérébelleux en rapport avec une sclérose en plaques, par exemple. Voilà. Et c'est un traitement qui est très bien toléré.
Donc, vos conseils,
c'est de voir avec M. Lystra.
Il ne sait pas,
docteur Lystra. Il nous en parlera parce qu'on est voisins de palier.
Oui, oui, hein?
Enfin, voisins de palier, ils sont juste un étage en dessous de chez nous.
C'est tellement complexe,
neurologique. Au niveau de la compensation par le cerveau de certaines fonctions du cervelet, vous nous avez dit là que c'était quelque chose qui se faisait assez facilement dans le cas d'AVC, dans le cas de tumeur.
Oui, qui est une agression, ou d'infection, qui est une agression aiguë.
Oui.
Oui.
Mais dans le cas de SCA, par exemple, ou d'un taxi de Friedreich, qu'elle soit récessive ou dominante, peu importe, dans le cas de ces maladies-là, est-ce que cette compensation...
Si je vous répondais, monsieur, que la compensation se faisait facilement, vous me diriez, mais alors qu'est-ce que vous attendez pour la faire? À l'heure actuelle, et à ma connaissance, ainsi que j'ai les mêmes connaissances que vous dans l'ESCA, les associations de patients sont aussi bien formées que les médecins spécialisés, et beaucoup plus informées que les médecins non spécialisés. Donc, vous savez comme moi que, à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de traitements en expérimentation, dont on attend les résultats. Vous savez également comme moi que ces SCA sont des maladies qui sont à la fois trop fréquentes, mais qui sont assez rares, et qu'il est toujours difficile de mener des essais thérapeutiques dans des maladies rares. Non pas faute d'argent, c'est pas du tout. Le problème, il n'est pas qu'à l'argent. Mais c'est que tout simplement, pour prouver l'efficacité d'un médicament, souvent, il faut beaucoup de patients, beaucoup de temps, et beaucoup de temps. Voilà.
Alors, moi, l'impression que j'ai en tant qu'accompagnant de patients, c'est que ces aspects de compensation sont excessivement fatigants.
Toujours.
Ça, c'est...
Toujours parce que, si vous voulez, ça mobilise forcément un grand nombre de ressources. Vous, quand vous marchez, moi, quand je marche, tout se fait en automatique.
Oui.
C'est-à-dire, j'ai le pilotage automatique. Donc, je ne réfléchis pas à marcher, à mettre un pied devant l'autre, à m'équilibrer. Quelqu'un qui a un syndrome cérébelleux, quelqu'un qui a un syndrome parkinsonien, quelqu'un qui a une hémiplégie, eh bien, il est sans arrêt de... Il n'a plus de pilote automatique. Donc, il est obligé d'être en permanence en conduite à vue. Donc, c'est épuisant. Et dès lors que le patient est fatigué, eh bien, il se remet en pilote automatique. Comme le pilote automatique est débloqué, eh bien, c'est là où on les voit moins bien marcher, c'est là où on peut les voir, on peut les voir chuter. Oui, oui, tout à fait. Ça nécessite beaucoup de ressources.
Ça explique donc en partie le fait que, au fur et à mesure que la maladie évolue, les périodes de fatigue et la nécessité de dormir au cours de la journée augmentent.
Oui, et puis il y a aussi le fait que, si vous voulez, vous demandez à des cellules de travailler beaucoup plus pour compenser. Vous êtes d'accord avec cela?
Oui.
Donc, ces cellules qui travaillent deux ou trois fois plus, si elles venaient à défaillir, la conséquence serait plus fâcheuse que si elles n'avaient pas deux à trois fois plus de travail.
Alors, elles se court-circuitent temporairement pour...
Je ne peux pas vous dire si c'est... Peut-être que l'image est bonne, mais c'est sûr qu'on leur demande beaucoup plus de travail que quelqu'un qui n'a pas de problème.
D'accord.
Mais... ce que je veux dire aussi, c'est qu'il n'est pas nécessaire de comprendre de quoi vient une maladie pour la soigner. À l'inverse, on peut tout comprendre d'une maladie sans y avoir beaucoup de difficultés à la soigner. De même, on peut, par certaines voies détournées, proposer des traitements assez performants. Je vous donne un exemple de la maladie de Parkinson, et d'autres maladies. Je ne vous ai pas montré que la maladie de Parkinson, où il y a eu des progrès considérables ces dernières années. Mais de toute façon, tout cela n'empêche pas tout ce qui est traitement quotidien qui va... les malades le disent bien, quelquefois, il suffit d'un petit rien pour entraîner des conséquences très positives. Ou un petit rien pour entraîner des conséquences très négatives.
Et est-ce qu'on peut envisager le principe de stimulation dans les SCA?
Non, à l'heure actuelle, non. Non, ça n'a pas été étudié. Mais c'est pour vous montrer des
c'est bien des cellules qui se détruisent.
C'est bien des cellules qui se détruisent.
Mais si vous voulez, on peut les stimuler dans Parkinson.
Parce que dans le Parkinson, ça obéit à une circuiterie qui est parfaitement connue et des cibles qui sont parfaitement connues. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un maillon qui ne marche pas. Donc on sait que oui, mais les choses sont pas si simples que ça. L'équipe qui travaille le plus là-dessus, vous le savez bien, enfin, certainement ceux qui ont la plus grosse expérience en France, ça c'est sûr, dans le monde c'est possible, c'est nos amis de la Salpêtrière, donc l'équipe d'Alexandre Radur et de Bertrand Fontaine et d'Alexis Brice. Voilà, donc ce sont des gens qui ont la plus grosse expérience française, c'est sûr, mondiale, c'est probable, dans ces maladies-là. Donc à l'heure actuelle, à ma connaissance, ce genre de traitement n'a pas été fait.
D'aucun traitement.
Je ne veux pas que vous m'épreniez. Le but de ma conférence, c'est pas de vous dire il y a la greffe dans l'ESCA, il y a la stimulation dans l'ESCA. Le but de vous dire, c'est que il y a des progrès qui sont faits dans des maladies réputées intraitables. C'est dommage que ce ne soit pas l'ESCA. Ou les affections dégénératives du cervelet, c'est tant mieux que ce soit la maladie de Parkinson, le tour d'autres maladies viendra. Dans la sclérose en plaques, qui est une maladie redoutable qui concerne ma spécialité, il y a plein et plein de progrès. Ce n'est pas la guérison encore, mais par rapport à il y a 10 ans, c'est le jour et la nuit. Donc certainement que les maladies neurologiques sont les maladies qui sont amenées à faire le plus de progrès d'un point de vue thérapeutique dans les prochaines, dans les prochaines décennies. Mais des choses arriveront plus vite que d'autres. Je ne peux pas vous dire mieux, je ne suis pas là pour vous raconter des salades. Hein. C'est pas, d'ailleurs, vous ne me croiriez pas si je vous disais ça. Hein.
D'autres questions, là? Parce qu'il va falloir qu'on libère...
Oui, c'est vrai que j'avais dit 8h30 à mon gamin pour aller chercher à l'escalade.
Allez-vous d'autres... Allez-y, hein.
Il a l'habitude de m'attendre.
Non, pas d'autres questions?
Non, pas plus pour
se lancer. Bon, j'espère que j'ai été...
Vous avez été
que j'étais clair.
On vous remercie.
J'en prie.
On vous remercie. Je pense que nous avons tous compris que votre objectif a été de donner de l'espoir.
Oui, mais oui, je suis d'accord avec vous. Pas de faux espoir, mais dire que Parce qu'on entend, on entend dire à juste titre que la recherche n'avance pas, que c'est des problèmes financiers.
Il n'y a pas que ça.
Il n'y a pas que ça du tout. Je peux vous dire que la recherche avance beaucoup, qu'il y a énormément de travail, que la France n'est pas seule. S'il y a une découverte au Zimbabwe, on le saura dans la minute qui suit, ou en Australie, ou etc. Donc c'est le monde qui avance la main dans la main. Hein.
Qu'est-ce que vous disiez, Hubert, vous avez trouvé aux États-Unis, ils ont trouvé quelque chose pour une tonne?
Je suis pas au courant.
Mais là, cette semaine.
Non, ils en ont parlé à la marche.
Au magazine de la santé.
Ils auraient trouvé que la huntingtine plus une protéine qui vient d'identifier dans la zone dans laquelle agit l'huntingtine, que c'est quand ces deux protéines-là, l'huntingtine plus celle qu'ils ont trouvée, se rencontrent, que c'est à partir de là que se produit ce que j'appelle moi l'explosion, c'est-à-dire l'apparition de tous les symptômes que l'on connaît.
Donc ils ont trouvé, il était trouvé un maillon de l'explication de cette maladie-là.
Mais c'est important comme découverte parce que ça va permettre d'avoir une nouvelle voie pour voir si on peut.
Parce que ce qui est important aussi, c'est de ne pas trop croire ce qu'on entend dans la presse, à la télévision, à la radio, parce que si on les écoutait, ces maladies-là seraient soignées depuis déjà 10 fois et depuis bien longtemps. Donc, faites confiance aux associations et aux médecins.
Je peux me permettre, parce qu'on parlait de la Pitié-Salpêtrière qui est à la pointe en ce qui concerne les stades, donc j'ai appris par Alexandra Dio, moi j'ai provoqué sa réponse, et elle m'a dit que ce n'était pas une utopie de croire que dans les 10 ans à venir, il y aurait des solutions qui existeraient, mais dans un premier temps, pour empêcher les syndromes cérébelleux de se déclarer chez les personnes porteuses, mais non encore malades. Dans un premier temps. Mais dans les moins de 10 ans, ce n'est pas une utopie.
Donc, ça s'appelle faire de la neuroprotection. C'est un domaine dont je ne vous ai pas parlé. C'est d'empêcher ou de limiter le ralentissement de la perte cellulaire. Tout à fait. C'est le domaine de la neuroprotection.
Des décennies, ça concerne les personnes qui sont pas, dont la maladie n'est pas encore vécue. Après.
Mais c'est une déclaration. Il faut attendre pour que.
Ah oui, oui.
Mais il faut garder espoir.
Mais je vous le dis, c'était ma dernière diapositive. C'est ma dernière positive.
Mais quand l'analyse génétique est réalisée, on sait comme porteur, on n'a rien, mais on sait qu'on va le développer dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Et si on sait.